journal est présenté par Antoine de Necher.
Bonjour. Mon nom est mort aux traîtres, liberté pour la Grande-Bretagne. Voilà les premiers mots provocateurs prononcés ce matin à Londres par l'homme suspecté d'avoir tué la députée Jo Cox. Jeudi, la police privilégie officiellement la piste de l'extrême droite. Nous retrouvons dans un instant Catherine Dutu en direct de Londres. En Belgique, la police a effectué cette nuit des dizaines de perquisitions et a interpellé 12 personnes dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste. Précision depuis Bruxelles de Johanna Hochstein dans un instant également en direct. Primaire ou pas primaire à gauche avant la présidentielle, on pensait l'idée enterrée. Mais voilà que le patron du PS propose une primaire avec François Hollande. Alors à quoi joue Jean-Christophe Cambadélis? S'agit-il d'une tactique pour organiser une élection interne à la gauche dite de gouvernement et favoriser la candidature Hollande? Nous poserons la question au politologue Rémi Lefebvre, lui-même militant socialiste. Il sera notre invité dans un instant. Enfin, le salon Eurosatory vient de refermer ses portes à Paris. Notre reporter Maël Robert nous expliquera que les entreprises du secteur de l'armement proposent aussi des débouchés civils. Au Royaume-Uni, la campagne du référendum sur le Brexit reste suspendue. Aujourd'hui, samedi, le pays et la classe politique sont sous le choc après le meurtre jeudi de la députée travailliste anti-Brexit Jo Cox près de Leeds. Cette femme de 41 ans, mère de deux enfants, n'a pas survécu aux coups de feu et de couteau qu'elle a reçus. Le suspect interpellé dès jeudi, Thomas Mair, est arrivé au tribunal de Westminster à Londres ce matin. Catherine Dutu, vous êtes en direct. Il s'est montré provocant vers la justice.
Mon nom est mort aux traîtres, liberté pour la Grande-Bretagne, c'est ce qu'a répondu Thomas Mair, vous le disiez Antoine dans les titres, lorsque le juge lui a demandé de décliner son identité. Thomas Mair, pull gris, pantalon de jogging, a ensuite gardé le silence lorsque la cour lui a demandé d'indiquer ses lieux et dates de naissance. Premier acte de défiance de cet homme de 52 ans, inculpé la nuit dernière pour homicide volontaire. Jeudi, il aurait tiré 3 fois sur la députée travailliste Jo Cox, opposée au Brexit, avant de la poignarder à plusieurs reprises. Quels sont les liens de ce meurtrier présumé avec l'extrême droite? C'est les enquêteurs qui approfondissent encore cette piste. Selon des témoins, au moment de l'attaque, Thomas Mair aurait crié « Britain first », la Grande-Bretagne d'abord. Un parti d'extrême droite porte ce nom au Royaume-Uni. Il a nié toute implication dans ce crime. La piste de l'extrême droite peut être aux États-Unis. Selon un groupe américain de défense des droits civiques, Thomas Mair serait un partisan dévoué d'un groupe néo-nazi installé aux États-Unis. Des antécédents également de troubles mentaux mis en avant par le frère du suspect et par des quotidiens britanniques. Mais des chroniqueurs comme Juliette Samuel dans Le Télégraphe s'exaspèrent. Pourquoi ne pas parler de terrorisme d'extrême droite dans cette affaire? Après tout, la victime, Jo Cox, était une fervente avocate de la cause des réfugiés et de l'Union européenne. La campagne référendaire au Royaume-Uni est d'ailleurs suspendue au moins jusqu'à demain.
Merci beaucoup Catherine Dutu, en direct depuis Londres pour France Culture. Avant le référendum de jeudi, sachez que le quotidien The Times aujourd'hui se déclare favorable à un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne dans un éditorial intitulé « Refonder l'Europe ». The Times, qui fait partie du groupe de médias de Rupert Murdoch, qui possède également le tabloïd The Sun, qui lui s'est déclaré partisan d'un Brexit. Jeudi dernier, les médias belges divulguaient une note interne de la police faisant état de menaces terroristes imminentes en Europe et notamment en Belgique. Deux jours plus tard, voilà que la police belge vient de mener une vaste opération antiterroriste. C'était la nuit dernière, Johanna Hochstein.
Et un Conseil national de sécurité qui réunit le Premier ministre belge, les ministres de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice et plusieurs représentants des services de sécurité vient tout juste de démarrer. Objectif, faire le point sur l'opération de très grande envergure menée hier soir dans 16 des 19 communes de la région bruxelloise, à Schaarbeek, à Molenbeek, à Zaventem notamment, mais aussi dans plusieurs villes en Wallonie. Alors ce vaste coup de filet s'est achevé par l'interpellation de 40 personnes. 12 d'entre elles ont été placées en garde à vue. On n'en sait pas plus pour le moment sur leur identité, si elles sont ou non liées aux attentats de Paris ou de Bruxelles. Le parquet confirme uniquement que ces perquisitions ont bien été menées dans le cadre d'une affaire de terrorisme. Ni armes ni explosifs n'ont été découverts sur place, peut-on également lire dans le communiqué du parquet. Toute la question maintenant est de savoir si ces perquisitions sont liées ou non aux informations révélées par la presse belge cette semaine qui faisaient état de combattants étrangers partis de Syrie en route pour la Belgique et prêts à commettre des actes terroristes de façon imminente. L'OCAM, l'organe chargé d'analyser la menace terroriste, avait minimisé ces informations et avait décidé de maintenir le niveau d'alerte terroriste au niveau 3 sur une échelle de 4.
Merci Johanna Hochstein en direct de Bruxelles pour France Culture. Par ailleurs en France, les deux hommes de 27 et 29 ans qui avaient été interpellés au lendemain du meurtre d'un couple de policiers à Magnanville dans les Yvelines viennent d'être déférés ce matin devant la justice antiterroriste. Ils devraient être mis en examen. La justice française cherche à savoir si ces deux hommes ont aidé le meurtrier Larossi Abala à préparer son attaque. Attaque qu'il a revendiquée, on le rappelle, au nom de l'organisation État islamique. Dans 49 jours, Rio de Janeiro accueillera un demi-million de visiteurs et sera sous les regards des médias du monde entier. Mais finalement, Rio sera-t-il prêt à organiser les Jeux Olympiques ? La question se pose ce matin, puisque l'État de Rio vient de se déclarer en état de calamité publique. Habituellement, ce genre de décret n'est publié qu'en cas de catastrophe naturelle. Mais là, l'État de Rio assure ne pas être en mesure d'assurer ses engagements pour les Jeux Olympiques et demande une aide d'urgence à l'État fédéral brésilien à Vigna.
C'est une première dans l'histoire de Rio de Janeiro. L'état de calamité publique n'avait jamais été utilisé, mais aujourd'hui, Rio n'est plus en mesure d'assurer ses engagements. Les fonctionnaires ne sont toujours pas payés pour ce mois de juin et les budgets promis pour les Jeux Olympiques ne sont plus disponibles. Francisco Dornelles, gouverneur par intérim, demande donc une aide fédérale d'urgence pour ces Jeux Olympiques, tout en assurant que ce seront les plus beaux Jeux jamais réalisés. Il manque déjà une rallonge de budget pour terminer le métro qui doit aller jusqu'aux installations olympiques. Il manque aussi des moyens pour la sécurité. Jeudi, le ministre de l'Intérieur de l'État de Rio a demandé encore des renforts aux forces militaires. La dette de l'État se chiffre désormais à 5 milliards d'euros et Rio n'est plus en mesure de contracter de nouveaux emprunts. Il ne reste plus que la manne fédérale qui, pour les Jeux Olympiques, va certainement être généreuse.
Une correspondance d'Anne Vigna à Rio de Janeiro. En France, ils ont fait grève pendant 26 jours à l'appel de la CGT. Les personnels des terminaux pétroliers de Fos-sur-Mer et de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône viennent de lever leur mouvement. La raffinerie est en cours de redémarrage depuis ce matin et les déchargements de bateaux ont repris. Une cinquantaine de navires étaient bloqués en rade en raison de cette grève qui avait été déclenchée contre le projet de loi Travail. Question maintenant, que se passe-t-il au Parti Socialiste ? En début de semaine, Jean-Christophe Cambadélis avait évoqué un possible congrès extraordinaire de son parti pour modifier les statuts et ne pas organiser de primaire pour désigner le candidat à la présidentielle l'an prochain, puisque en quelque sorte François Hollande est le candidat naturel. Et voilà que juste avant un conseil national du PS, tout à l'heure à Paris, le patron du parti propose finalement une primaire à laquelle pourrait participer le chef de l'État en janvier prochain. Alors que cherche à faire Jean-Christophe Cambadélis, on va poser la question à notre invité. Bonjour Rémi Lefebvre.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Lille 2, vous-même membre du Conseil national du PS. Et puis en 2011, vous aviez commis un ouvrage chez Raison d'agir, Les primaires socialistes, la fin du parti militant. Que cherche à faire selon vous Jean-Christophe Cambadélis ?
Bah, écoutez, là, il a vraiment pris tout le monde de court. C'est très étonnant. Il y a eu cette déclaration donc, sur un congrès extraordinaire visant à modifier les statuts. Et puis là, on a l'impression qu'il change complètement de position et donc qu'il appelle à une primaire de la Belle Alliance Populaire, c'est-à-dire en somme, hein, une primaire ouverte aussi à plusieurs socialistes hein, qui pourraient se présenter contre le président sortant. Je pense que Cambadélis n'a voulu se refuser aucune option. Et là, il se rend compte que pour relancer François Hollande, qui est dans une situation catastrophique, hein, puisqu'on voit que même Jean-Luc Mélenchon le devance dans les sondages au premier tour, eh bien, au fond, il est obligé de passer par la case primaire. Donc on ne peut évidemment... François Hollande est au courant, il est d'accord, et donc il y aura cette primaire, alors avec quand même un certain nombre de réserves, parce qu'il y a un certain nombre de questions logistiques qu'il faut régler, des questions de calendrier qui sont essentielles et qui vont déterminer cette primaire ou pas.
On est bien d'accord que ce serait une primaire a priori sans les communistes, sans les écologistes qui ne veulent pas d'une fameuse primaire ouverte à François Hollande, mais ça pourrait être une primaire interne et ça va obliger notamment le camp de Martine Aubry ou les frondeurs à l'intérieur du PS peut-être à envoyer des candidats.
Oui, alors je précise, parce que vous dites que c'est une primaire interne, elle sera bien ouverte, hein, cette primaire. C'est-à-dire, le principe de la primaire, c'est bien comme en 2011, lors de la première primaire socialiste, c'est que les sympathisants, dans leur ensemble, vont pouvoir voter. Hein, je précise, puisque par contre, il y aura plusieurs candidats socialistes, peut-être des candidats d'autres partis, même si on en doute, et effectivement, ça réouvre le jeu, puisque les opposants aujourd'hui à François Hollande, les frondeurs et, dans une moindre mesure, Martine Aubry, vont devoir se positionner par rapport à cette échéance. La gauche du PS va devoir produire, un candidat unique, hein, donc ce qui va poser un certain nombre de questions, hein, notamment, je pense, par exemple, à Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, qui est déjà candidate. Il va falloir arbitrer entre ces diverses tendances. Et alors, peut-être d'autres candidatures, on ne sait pas, mais bon, je doute évidemment beaucoup d'une candidature de Martine Aubry, par exemple.
Rémi Lefebvre, en 2011, vous étiez opposé à la fameuse primaire qui pourtant avait été un succès populaire citoyen. Vous en pensez quoi, là, de cette idée de primaire ouverte à la belle alliance populaire, idée de Jean-Christophe Cambadélis?
Écoutez, moi, ma réflexion sur les primaires n'a pas changé, hein. Mon idée, c'était de dire qu'elle participe d'une personnalisation excessive de la vie politique, qu'elle présidentialise à outrance nos institutions encore un peu plus et qu'elle affaiblit les partis. Le problème, c'est que quelques années maintenant, plus tard, après cette primaire de 2011, au fond, on voit toujours que la primaire est utilisée comme un mal nécessaire, comme quelque chose qui permet d'éverrouiller une situation, de produire de l'unité. Donc la dimension démocratique me paraît de moins en moins affirmée, hein. Au fond, il s'agit de combler les défaillances des partis politiques. Voilà, on est dans une situation où les primaires ouvertes de coalition, primaires de toute la gauche, ne sont pas possibles parce qu'il y a une polarisation idéologique trop grande de l'espace à gauche. Et là, elles vont être utilisées finalement ou pour légitimer un président sortant extrêmement affaibli ou pour donner le change à l'opinion, pour donner l'impression que finalement, il ne s'impose pas comme ça d'autorité, qu'il faut passer par cette procédure. Voilà. Donc je trouve quand même qu'il n'y a pas un énorme enthousiasme finalement autour de ces primaires. On les utilise comme un moindre mal, en fait.
Oui, mais en quoi ça, vous dites, ça va légitimer François Hollande, mais en même temps,
le disqualifier.
Imaginons qu'il soit sélectionné par cette primaire, quand je disais interne à la gauche de gouvernement, on va dire. Hein.
Oui.
En quoi ça le relancerait dans les sondages? Par exemple, il pourrait passer systématiquement devant Jean-Luc Mélenchon.
Non, ça ne le légitime pas mécaniquement, mais au moins ça va lui donner un assentiment populaire qu'il n'avait pas, puisque au fond il s'imposait du haut de son autorité présidentielle comme ça, sans alors même d'ailleurs que les primaires étaient dans les statuts du Parti socialiste. Donc c'est quand même pas négligeable. Si dans cette primaire en janvier prochain il y a plusieurs centaines de milliers, peut-être 1 million, 2 millions d'électeurs qui participent à la primaire, alors qui pourraient éventuellement voter pour François Hollande. Alors c'est pour ça que je pense que les primaires vont encore nous réserver beaucoup de surprises.
D'accord.
Est-ce que François Hollande sera quand même candidat? Je pense que plus que jamais, l'hypothèse qu'il ne soit pas candidat existe et il faut la prendre en compte. Parce que cette primaire est une prise de risque considérable pour lui. Le risque, concrètement, s'il a un bon candidat face à lui, qu'il soit désavoué dans le cadre d'une primaire alors qu'il est président sortant.
Merci beaucoup Rémi Lefebvre d'avoir été en direct sur France Culture, professeur de sciences politiques à Lille 2 et membre du Conseil national du PS. Eurosatory, maintenant, le salon international de la sécurité et de la défense, a refermé ses portes à Paris hier soir. Ses détracteurs le baptisent supermarché de la mort, puisque les industriels de l'armement y présentent leurs principales innovations. Mais les PME françaises veulent également faire connaître des produits qui ont des vocations civiles, Maëlle Robert.
C'est la fierté de l'entreprise RB3D, un nouveau modèle d'exosquelette, sorte de combinaison qui aide à porter les charges lourdes. Avec deux moteurs seulement, le mécanisme est plus économe en énergie. Un atout pour le PDG Serge Grigorowicz, qui a conçu son produit aussi bien pour ses usages militaires que civils.
L'usage militaire, là en l'occurrence, c'est du transport de munitions, donc avec des visées civiles dans le monde de la logistique. Manutention, préparation de commandes sur des charges lourdes du style 40 kg de sacs de ciment, des choses comme ça.
À côté, la PME Physip présente son prototype pour surveiller l'état de fatigue des pilotes. Là encore, que ce soit de l'aviation civile ou militaire, sa directrice, Marie Brandewinder.
Un casque sur lequel on place deux capteurs qui sont en mesure d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Avec une analyse fine de cette activité cérébrale, on est en mesure de savoir si le sujet est encore frais ou alors s'il est au bout de ses limites.
Ainsi, si le pilote est trop fatigué, la conduite de l'avion pourra basculer en mode automatique. Ces deux entreprises ont bénéficié du programme Rapide, une aide du ministère de la Défense dédiée aux PME françaises dont les innovations ont justement des applications civiles et militaires. David en est le responsable au sein du ministère de la Défense.
L'avancée technologique n'est plus l'apanage du ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on était à la pointe technologique dans énormément de domaines. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. La masse d'investissement du monde civil est bien plus importante. Donc on se doit d'aller à la recherche de ces technologies-là pour voir comment les intégrer.
Et ce programme représente 50 millions d'euros par an.
Un reportage de Maël Robert pour France Culture. La météo très instable cet après-midi sur une grande partie du pays. Seule la façade ouest restera au sec avec des éclaircies. Merci à François-Charles Domergue pour son aide et à Jean-Guilain Meige à la prise de son.